Vous écoutez RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade, comment
bonjour
ça va Jade?
Bonjour Eric, bonjour tout le monde, ça va très bien.
Je vous ai pas trop manqué en cette première semaine d'août?
Si.
Quelle menteuse. Mais vous mentez mal en plus.
Mais si, ça a été tout à fait supportable, je vous rassure.
Voilà, je le savais.
Jusqu'à
mentais, voilà.
12h30, on refait les meilleurs de l'année avec aujourd'hui deux coachs ou ex-coachs de The Voice, Amel Bent et Soprano.
Et on réécoutera aussi nos meilleurs moments avec le mendiant de l'amour. Je veux bien sûr parler du légendaire Enrico Macias.
Ah, oui.
Mais d'abord, celui que vous écoutez forcément en voiture pendant les vacances si vous avez des enfants ou des ados, c'est bien sûr Soprano.
Oui, quand il ne chasse pas les étoiles, que regarde-t-il à la télé? On lui avait posé la question en lui laissant choisir ses programmes télé préférés.
Le plateau télé de l'invité.
Qui est le patron de la télécommande chez vous, Soprano? C'est vous, vos enfants, votre épouse?
Alors, ma dernière qui s'appelle Luna. Et du coup, on se tape même à 8h, 20h30, Barbie. En dessin animé.
Quel âge est-elle?
Eh oui, ça passe sur les chaînes jeunesse, ouais.
Et voilà. Ouais. Et du coup, et je peux crier, dire tout ce que je veux, et dès qu'elle me regarde avec ses yeux, j'ai dit vas-y, regarde.
Okay. Bah, vous cédez quoi.
Voilà. Et du coup, on est tous en train de regarder Koh-Lanta sur le téléphone.
Pour moi, j'ai une bonne nouvelle ici. C'est vous et vous seul qui allez décider ce que vous allez regarder à la télé.
Okay.
On vous donne des programmes et vous choisissez, Soprano.
D'accord.
Lundi soir, on vous propose sur la chaîne Automoto une émission de restauration de voitures de luxe qui s'appelle Chasseurs de bolides.
Ou alors, c'est pas d'étoiles, de bolides.
Ou alors un classique du cinéma sur France 5 qui a traumatisé 5 générations, Les Dents de la Mer. Ta-na.
Ta-na.
Oui, c'est, faut savoir qu'à l'époque, c'est
Jade. Quand elle a fait ça, j'ai eu le frisson. J'ai eu le frisson comme si le film était...
Voilà. Et là, deux notes.
Alors, direct... Avec ce que je viens d'entendre, non, je ne regarderai pas.
Pas les dents de la mer.
Voilà. On va regarder les voitures, peut-être.
C'est vraiment pas votre truc, ça, les voitures de luxe. Contrairement à d'autres rappeurs qui sont très bling-bling, vous, il paraît que même pendant très longtemps, vous avez roulé dans une vieille voiture.
Oh, ben, je l'ai toujours. J'ai une petite Golf qui est fracassée un peu partout et une C1 toute fracassée.
Mais les gens, ils doivent trouver ça bizarre quand ils vous voient là-dedans.
Ah, ben, une fois, j'arrive avec ma C1, à côté d'un jardin, il y a une famille qui arrive, fait, oh, il y a Soprano, j'étais dans un feu rouge. Et il court pour venir me demander une photo et d'un coup, la maman, elle dit, non, c'est pas lui, regarde la voiture, c'est impossible. Et ils sont repartis, ils m'ont rien demandé. Et moi, j'étais mort de rire. Et des fois, il m'arrive des anecdotes comme ça où une fois, j'étais carrément sur la corniche à Marseille, il y a les bouchons, je suis encore avec cette voiture toute fracassé, qui a un problème d'embrayage et tout. Et je vois des gens qui me reconnaissent, qui klaxonnent, il y en a qui me snap, ouais, Sopra. Et du coup, il y en a un, il a dû se dire, ben, avec la voiture qu'il a, ben oui, c'est vrai, il a l'air d'être super simple, super sympa. Sopra, justement, on va faire un barbecue sauvage là, viens avec nous. J'ai dit, bon, ça c'est l'effet de la voiture, je pense. Et du coup, je lui dis, mais je dois aller chercher mes enfants, aujourd'hui je ne peux pas venir avec vous. Donc oui, mais c'est pas parce que je n'aime pas c'est parce que je me sens mal à l'aise, comme avec les gros bijoux, tous ces trucs-là, j'arrive pas.
Vous n'êtes pas un rappeur bling-bling, vous, hein?
Non, depuis toujours, même avant. Avant, même quand j'étais très très rap, j'étais pas comme ça.
On retourne à votre plateau télé.
Alors, vendredi soir, vous serez plutôt devant Danse avec les stars sur TF1 ou La boîte à secrets de Faustine Bollard qui recevra Sylvie Vartan, Nolwenn Leroy et un certain Soprano.
Je l'ai appris ça hier.
Ah bah, vous l'avez tourné, ça allait bien finir par passer. Hein.
Mais oui, je sais, mais je savais pas quelle date et je l'ai appris hier.
Bah, en plus, c'est une émission un peu spéciale. Parce que je crois que j'ai jamais été aussi ému avec les surprises que j'ai vues quand la boîte à secrets s'est ouverte. Donc du coup, c'est vrai que ça va être un peu spécial. Peut-être même, je me demande si je vais regarder parce que je vais être mal à l'aise par certains moments. Voilà, il y a eu des moments très 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 émouvants.
Mm-hmm. Ça, vous arrivez à vous regarder à la télévision, vous? Ça vous dérange pas? Votre image vous dérange pas? Il y en a certains, ils peuvent pas. Hein.
Moi, il y a des fois oui, il y a des fois non. Le truc qu'on a regardé le plus en famille, que j'étais le plus fier, c'était mon prime. Ça, on a vu toute la famille, on l'a regardé.
Et oui, avec Camille Combal, qui présente aussi Danse avec les stars.
Voilà.
Alors peut-être qu'il va finir par vous convaincre de faire Danse avec les stars.
Ah non.
D'un fois, vous avez dit, je peux pas, j'ai le vertige.
Mon sens du rythme, il est...
Vous vous rendez compte quand même que l'excuse que vous avez donnée la dernière fois n'était pas recevable.
Elle était pas mal, j'ai le vertige.
Mais c'est,
non,
pas, le cirque pain, c'est pas le cirque Pinder. On n'est pas à 30 mètres au-dessus du sol.
Mais
on danse.
Mais t'imagines, imagine, je commence à danser avec Ferroto, je suis comme ça et d'un coup je tombe. Et il va me donner quelle note?
Donc c'est pas pour demain.
Non, non, j'arrive pas. Et en plus, comme j'ai dit, je me concentre sur les émissions où je sais que je vais chanter, où on parle de ma musique.
Un mot encore de la boîte à secrets.
Oui, il y a quelques semaines, on a reçu Nolwenn Leroy et elle nous a raconté les coulisses de ce tournage. Quand vous êtes allés ensemble à la rencontre du groupe Coldplay qui tournait Taratata juste à côté.
Et à un moment donné, il y a donc Sopra qui vient dans ma loge et il me dit « Écoute, je te le dis, il y a Coldplay qui est dans le bâtiment. Moi, je ne pars pas d'ici sans avoir vu Coldplay. Hein. Je te le dis. » Mais je dis « Mais en fait, on est où là ?» Et il me dit « Bah en fait, ils enregistrent Taratata aujourd'hui. » Mais c'est pas vrai. Et Sopra, il me dit. Donc, je passe 2-3 coups de fil. Là, il arrive, il me dit, c'est bon, on débarque. Et là, 3 minutes après, je les vois débarquer. Et là, j'étais en sortie de corps.
Alors, Soprano, comment vous avez fait pour réussir à rencontrer Coldplay? Vous avez le 06 de Chris Martin, peut-être?
Ah non, j'aurais aimé, mais non. Alors
vous
là,
avez appelé qui?
J'ai appelé tous ceux que je connaissais de ma maison de disques, tous ceux de mes collègues, des gens qui travaillent avec Taratata. Il y en a un qui était à l'école avec moi, qui fait les coulisses. Donc j'ai essayé de le choper et dire, vas-y, j'ai dit, tu peux tout sortir. Tu lui dis, je fais des stades, dis-lui que je vends beaucoup de disques, dis-lui que tous les trucs que d'habitude j'aime pas qu'on dit aux gens et tout, ben là tu
vends
peux les dire.
Vas-y, vends-moi.
Et ben, il y a une amie à nous qui s'appelle Zaya, qui arrive, fait, monte, t'inquiète, au premier étage, viens et tu vas pouvoir faire la photo. On monte, et quand on monte, on voit Chris Martin qui sort de la loge, Chris Martin qui parle super sympa. J'ai halluciné la sympathie qu'il avait.
Et il vous a dit, c'est vous le fameux qui fait des stades à n'en plus finir en France.
Et justement, il me l'a pas dit. Je me suis dit, merde, ils m'ont pas vendu.
Ils ont pas dit les stades.
Ils ont pas parlé. Non, c'était super cool. Il est arrivé, il m'a dit, ouais, vous allez chanter là, Taratata. J'ai dit, non, on est dans une émission juste après. Il parle super bien français. Et d'un coup, le groupe entier débarque. Et là, je vois Nolwenn qui est en panique, qui parle pas, qui dit, bon, ben on y va. J'ai dit, non, on fait la photo maintenant. Et du coup, on réussit à faire la photo avec eux, super sympa, super cool, et c'était un super moment.
Vous êtes comme ça, vous, quand vous voulez quelque chose, vous foncez. Hein.
Il faut y aller jusqu'au bout. Bon, après, c'est pas comme si c'était pas un de mes groupes préférés, donc du coup, je me suis dit, on va tout faire.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Vous écoutez les collecteurs dont on fait la télé, et nous sommes toujours avec Soprano.
Et nous allons maintenant réécouter un très grand moment de télé, un duo Soprano Chantal Goya.
Oula.
Dans la paprika coup de chaud, ça a vraiment existé. La preuve tout de suite dans le jeu du Archive ou Archifaux.
Archive ou Archifaux.
Soprano, on va tester votre mémoire. Si vous pensez que ce que l'on affirme est vrai, vous nous dites Archive, sinon Archifaux.
D'accord. Vous avez rappé à la télé avec Dorothée, Archive ou Archifaux.
Archifaux, mais comme j'aurais aimé que ce soit archivré.
Ah, parce que vous l'adorez, Dorothée.
Ah, oui.
Aujourd'hui, d'ailleurs, encore petit blouson Dragon Ball Z qui était diffusé dans le club Dorothée.
Je suis un passionné de manga et ça, c'est grâce à Dorothée. J'ai regardé les premiers mangas japonais parce que je voyais Dorothée qui était là avec pas de pitié pour les croissants, avec toute son
équipe. Ah ouais, il est vraiment incollable. Parce que ça, c'est les puristes, c'est seulement les puristes.
Ah ouais, il y a pas de pitié pour les croissants. Savoir.
Alors, Dorothée, c'est faux, mais vous l'avez fait avec une autre idole des enfants, c'était Chantal. Goya.
Ah oui, c'était pour les enfants de la télé, je crois, c'est
exactement.
Ça?
Exactement.
Ah oui, c'est vrai.
Booba, Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur ta blanche neige.
Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête.
Booba, Booba, mon petit garçon, tu roules et tu vas à travers les champs de l'hiver. Attention, attention, Booba, attention, attention.
J'ai aimé.
Pas mal. Hein.
Elle avait un flow et en plus elle avait l'attitude. Elle bougeait les
pieds. MC Goya est dans la place. Hein.
Mais oui.
Booba, ça nous fait aussi penser évidemment au rappeur qui lui fait pas vraiment des chansons pour enfants. Vous, Soprano, vous êtes aux antipodes du rap Bad Boys. Vous faites des chansons pour tous au début. Comment ça se passait avec les médias, la télé? Ils avaient pas tendance à mettre tous les rappeurs dans le même sac? Ça a dû être un peu compliqué d'avoir les premières télés, les premières interviews.
Mais bien sûr, parce que c'était totalement le contraire. On peut se dire que c'est vrai que les rappeurs qui peut-être un message un peu plus positif ou conscient, ils vont avoir plus de chances d'avoir la télé, c'est pas vrai. Il y avait des émissions qui m'appelaient pas parce qu'ils disaient mais il a jamais fait de prison, c'est pas un rappeur, c'est pas possible.
C'est vrai, vous étiez pas assez.
Je suis pas assez sulfureux pour qu'on m'appelle à la télé. On a commencé à m'appeler à la télé parce qu'il y avait des tubes et les concerts. C'est vraiment ma musique. C'est vraiment ma musique.
Aujourd'hui, ça a bien changé. Hein. Toutes les émissions de télé vous veulent, Soprano, sur leur plateau, vu votre popularité, évidemment. Mais finalement, quand on regarde bien, vous n'en faites pas tant que ça des télés. Vous êtes sélectif ?
Oui. J'essaie d'éviter quand il y a de la polémique, parce que j'ai pas le temps pour ça, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de... En plus, avec les réseaux sociaux, c'est compliqué, une phrase est sortie du contexte, et c'est le procès. Donc, je préfère aller dans les émissions où on va parler de ma musique, ou sinon, un endroit où je vais pouvoir chanter. C'est plus simple, parce qu'il y a qu'à travers ma musique que je peux mieux m'exprimer.
Allez, autre archive ou archifaux ?
Si je vous dis que vous avez déjà participé aux Amours, ce jeu qu'il animait, Bruno, sur France 2, vous me répondez archive ou archifaux ?
Archifaux. Archifaux. J'ai jamais fait les Amours, mais j'aime beaucoup Bruno, parce que c'est un grand supporter de l'OM.
Mais bon, ça, c'est voilà. Alors, en effet, c'était pas vous dans les Amours, mais quelqu'un qui vous ressemblait.
Ah ouais ?
Vous ressemblez à Soprano ? Le chanteur soprano, mais de dingue, on vous l'a déjà dit.
Ah, plus d'une fois, il y a même quelqu'un qui s'est déjà pris en photo avec moi, croyant que j'étais vraiment soprano.
Est-ce que vous avez joué le jeu en faisant genre « oui, c'est moi » ?
Ah ben, j'ai joué le jeu, et c'était une artiste connue, c'était Sheriff Aluna.
Mais non !
Donc ce type se fait passer pour vous, hein ?
Ah ouais, carrément. Alors là, je viens de l'apprendre, alors là, je suis bluffé.
Ah ben oui.
Bravo à toi.
C'est bien, vous avez une doublure.
Voilà, c'est ma doublure.
Ici, en tout cas, on a la chance d'avoir le vrai soprano. Et on refait la télé avec lui jusqu'à midi et demi. Bienvenue à bord.
Rejoins-moi dans mon vaisseau car il est l'heure de décoller. Un peu plus près de ces étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Pour oublier la pesanteur sur terre.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, c'est quoi votre chanson préférée d'Amel Bent?
Viser la lune, ça ne me fait pas peur.
Ah, moi, ça me fait un peu peur, donc on va arrêter ça tout de suite.
Oui, c'est pour ça que je suis pas chanteuse.
Je suis content de ne pas vous avoir posé la question quand Amel Bent est venue nous voir.
Mais est-ce que vous êtes mauvaise langue, mauvaise fée. Voilà. Je suis sûre qu'elle aurait adoré ma version. Elle est tellement sympa, cette Amel Bent.
C'est vrai.
Et en plus, elle ne manque pas d'humour. D'ailleurs, elle a bien failli faire carrière dans l'humour. Vous allez comprendre pourquoi dans son archive ou archifaux.
Archive ou archifaux ?
Amel Bent se souvient-elle de tous ses passages télé ? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec ce jeu. Si vous pensez que ce que l'on vous dit est vrai, vous nous dites archive. Si vous pensez que c'est du pipeau, archifaux.
Allez, ok. Votre première apparition, c'était dans l'émission Graines de Star de Laurent Boyer sur M6. Archive ou archifaux ?
Archifaux.
Mais ça aurait pu, si vous n'étiez pas trompé de file d'attente.
Tout le monde connaît
comment
cette histoire maintenant.
Elle est exceptionnelle cette histoire.
Moi je me suis pas trompée personnellement, je dois tout ça à ma maman qui a oublié de m'inscrire et quand on est arrivé sur place, il y avait évidemment plus du tout de place pour devenir chanteur ou chanteuse, mais il restait un petit peu de place dans la file d'attente des comiques, des graines d'humoristes et donc elle m'a dit, je voyais qu'elle était pas sûre d'elle et puis je lui dis mais tout va bien maman, tu m'as bien inscrite. Elle me dit oui, c'est la queue qui est juste là, donc on a fait la queue. Et puis quand je me suis retrouvée devant le caméraman, donc il m'a dit allez, c'est à vous, je filme. Donc lui, je pense qu'il espérait que je lui fasse une blague. Et puis moi, j'ai commencé à chanter. Il m'a dit, mais vous faites quoi là ? J'ai dit, je chante. Il me dit, non, ici, vous êtes à Graines d'humoriste, il faut nous faire un sketch. Ou... J'ai regardé ma mère, elle était tellement désemparée que j'ai fini par faire une blague. Non, je rigole, mais j'étais vraiment très déçue.
Donc loupé pour Graines de Star, mais vous passez ensuite le casting de Popstar, le premier télécrochet diffusé sur M6. Et là, ils vous disent quoi ?
Que je n'ai pas l'étoffe d'une star.
Ils avaient du pire.
Ouais, ils sont bien.
Bon, alors, comme vous n'êtes pas du genre à vous décourager, Amel Bent, là, vous envoyez une cassette à la Star Academy.
Ah non, mais on a tout fait le tour.
Mais je crois que vous attendez toujours la réponse, c'est ça ?
Ah oui, elle a dû se paumer entre temps.
Alors, votre persévérance va finir par payer en 2004. Vous êtes sélectionné pour la deuxième édition de Nouvelle Star, dont vous atteindrez la demi-finale. Et pourtant, ça n'avait pas bien commencé. Dovatia n'avait pas été très fan de votre toute première audition.
Bonjour, Amel. Qu'est-ce que vous allez chanter, vous, maintenant ?
La bohème de Charles Aznavour, par exemple. La bohème. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux.
En fait, je crois que vous êtes une très bonne chanteuse, mais de karaoké.
Sympa, ça met en confiance. Vous êtes dit à un moment donné, peut-être que ça ne marcherait jamais.
J'étais trop jeune pour avoir ce discours. À l'âge que j'avais, à 17 ans, c'était l'âge de tous les rêves. Même si, par exemple... Par contre, ma mère, elle me disait, c'est fini, quoi, c'est le dernier. Mais moi, je savais que ça allait pas être le dernier.
Allez, autre archive ou archifaux ?
Alors, vous avez déjà recadré une star de la télé-réalité dans une émission. archive ou archive faux?
J'ai recadré très peu de gens à la télé ailleurs d'ailleurs, c'est pas mon genre, mais il me semble que j'ai eu une petite rix avec...
Ça va lui revenir avec
un jeune homme chez Coé.
C'est ça. Il s'appelle Michael Vendetta, autoproclamé roi de la bogositude.
Toi, Michael, je te déteste pas, au pire, je m'en fous, mais je te déteste pas.
Pourquoi tu m'invites alors?
Putain, mais pourquoi t'es prétentieux? C'est dommage, parce que t'as des bonnes valeurs, tu parles d'ambition, de pas fumer,
tu
ne
sais
pas boire.
Je suis prétentieux.
Je t'ai trouvé vachement sympa au début, mais tu sais quoi, les mecs comme toi, on les voit un peu et après ils disparaissent. Des exemples et tout, mais de mecs qui ont fait des
mais
trucs
moi,
de leur
fait
vie.
Sourire quand
tu ne fais rien. Ah, rien pour l'instant, il n'y a rien, c'est du vent.
Amel Bent qui se trouve un peu violente en réécoutant ça.
J'avais quel âge?
Bah, c'était 2005, hein. C'était
j'avais
les débuts.
19 ans.
Ouais. Vous le referiez plus, ça, vous laisseriez couler?
Bah, je pense que c'est parce qu'on avait le même âge, lui et moi, et peut-être qu'au fond, je m'en rendais pas compte que j'étais à la télé, justement, et peut-être que je lui ai parlé comme je lui aurais parlé si on s'était croisé dans un bar ou ailleurs. Mais effectivement, non, aujourd'hui, je pourrais avoir le même discours, mais évidemment que je dirais les choses autrement.
La promo à Melbourne, vous avez été à l'aise dès les débuts, les premières interviews?
Bah, je crois que ça s'est entendu.
Vous êtes très détendu, ouais.
J'étais même trop à l'aise, je crois. Non.
Et derrière, c'est parce qu'il y a un staff qui vous dit, bon, peut-être falloir calmer le jeu, Amel.
On m'a jamais rien dit, on m'a jamais formé. Non, mais en fait, moi, je suis quelqu'un vraiment qui suis, au départ, vraiment sans filtre. Donc j'ai appris en tout cas à peut-être attendre un petit peu avant de répondre. Je me suis aussi donné le droit de ne pas répondre, parfois. Même si j'ai du mal, mais de temps en temps, il vaut mieux dire « je n'ai pas envie de répondre à cette question » plutôt que dire quelque chose qui va être mal interprété ou on sait qu'on ne va pas avoir le temps de bien s'expliquer, donc ça peut se retourner contre soi, tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai appris à la longue, mais je n'ai pas eu de formation, je n'ai pas de média trainer.
C'est la pratique.
Oui, c'est l'expérience. Et puis, j'aime. Franchement, pour le coup, c'est un exercice que j'aime bien. Donc, en plus, je prends du plaisir.
Amel Bent prend donc du plaisir en interview, mais en prendrait-elle dans l'émission « Rendez-vous en terre inconnue » ? Alors ça, rien n'est moins sûr. Amel Bent dans Rendez-vous en terre inconnue, c'est pour quand ?
Moi, j'ai juste peur de l'avion. Moi, je préférerais faire rendez-vous...
Chez moi ?
Non,
rendez-vous dans mon salon.
Il y a un rendez-vous en terre inconnue, mais français.
Ouais. Notaire.
Notaires inconnus, ouais. Voilà. Ouais, notaire. Ouais. Moi, je préférerais faire ça. C'est parce que je peux y aller en train, c'est super. Non, mais j'ai peur de l'avion. En plus, le pire, je vous jure, c'est que je me suis tâtée longtemps en me disant « Ah, vas-y, tu prends de l'exomil, on n'en parle plus. Ouais. » J'ai pris sur moi, je me suis dit « Bon, allez, tu peux le faire, etc. » Et puis Vianney, quand il est revenu d'être chopé, on était en plein enregistrement de The Voice.
C'était en janvier, ouais.
Le premier truc qu'il me dit, je dis « Alors, voyage en terre inconnue, c'était quand ?» Il me dit « On a failli se crasher dans la douche. » C'est une blague. Il me dit « Je te jure, il voulait atterrir dans la rue avec des bagnoles cassées partout. » Il m'a dit j'ai fait mes prières. » Il a dit ouais. À sa femme, sa belle-fille et tout. Vraiment, il a fait ses prières. Vraiment, il pensait partir. Et je lui ai dit « T'as bien fait de m'en parler.
» Voilà. Donc Vianney vous a définitivement convaincu de ne pas y aller.
Ça m'a fait flipper, je vous dis la vérité. Moi, j'ai trop peur de l'avion.
Eh ben, l'avion va avoir peur de vous, en plus, si vous prenez des trucs bizarres avant, évidemment.
Oh ben, l'avion risque rien. Non, l'avion risque rien. Mais bon, ça va être moins... Les rushs vont être moins intéressants.
Il n'y aura pas grand-chose, quoi. Il y aura quelqu'un qui dort.
Ben, le dérochage va être rapide.
C'est une nouvelle
émission.
Le
problème, c'est d'être un peu court. C'est-à-dire, c'est une émission qui doit faire quand même 1h45. Avec elle, s'il a fait 2 minutes, bon... C'est un gros budget, quand même, cette émission,
j'ai peur
vous savez.
Aussi.
Ah, vous avez peur de l'eau.
Même en pédalo, alors, c'est-à-dire que...
Non, on va peut-être aller au bois de Boulogne, un truc comme ça, tout ça.
J'y habite.
Bon, ben, voilà.
C'est moi qui veux vous donner rendez-vous.
Chez vous, alors, dans ce cas-là.
En terre inconnue, chez moi.
Parfait.
Vous allez voir, il y a plein de voyages à faire.
Vous vous rendez compte, Eric, que vous avez encore utilisé cette émission pour partager votre phobie de l'avion avec de nombreux invités cette année ? Vous êtes complètement névrosé, en fait.
C'est vrai.
À chaque fois qu'il y a un invité, vous avez peur?
Oui. Je le confesse, mais que voulez-vous? Chacun sa phobie, vous, c'est des blind tests.
Hein? Oui, c'est ça.
Et puis, je fais ce que je veux, madame. Je m'octroie les pleins pouvoirs. Après tout, il n'y a pas de raison qu'on les donne seulement à nos invités, ces pleins pouvoirs. Tenez, même Amel Bent, elle y avait eu le droit.
On refait la télé sur RTL.
Les pleins pouvoirs.
Bon, le président de la République a déjà beaucoup de pouvoirs, mais vous, Amel Bent, vous allez en avoir encore plus dans les minutes qui viennent. On vous offre carrément les pleins pouvoirs. Tous vos désirs deviennent réalité.
Voilà, alors je suis une fée, Amel, un premier pouvoir, celui de faire un duo avec l'artiste de votre choix. Vous choisissez qui ?
Ah, bonne question. Non, je dirais Maria quand même.
Maria Carré.
Oui. J'ai chanté avec Céline, j'ai chanté avec Aznavour, j'ai chanté avec Johnny.
Maria Carré, vous aviez quand même attendu 8 heures, c'est ça, pour avoir une dédicace ?
Ouais, non, mais j'ai eu la dédicace, le bisou, le sourire, la petite discussion, je l'ai trouvé gentil, j'ai eu un trop bon souvenir.
Et si vous aviez carrément le pouvoir de ressusciter une chanteuse ou un chanteur pour un duo, ce serait qui ?
Si j'ai ce pouvoir-là, je rechante avec Charles.
Il y aura peut-être aussi Whitney Houston, non?
Non, j'oserais pas.
Et pourtant, Whitney Houston...
Vous aviez réussi un tour de force absolument incroyable pendant La Nouvelle Star, puisque vous aviez osé vous attaquer au plus gros tube de Whitney Houston, I Will Always Love You, et vous avez bluffé tout le monde.
Oui, c'est plus long qu'une piste d'atterrissage, hein, cette note. Hein. Elle dure à peu près un quart d'heure. Mais là, n'empêche, on a la preuve que vos cordes vocales, elles ont été mises à rude épreuve hein, pendant Nouvelle Star, au point que vous avez dû vous faire opérer après.
Pas tout de suite après, non. En fait, j'ai commencé le premier. Je me rappelle, après le premier prime, j'étais à Faune. Je pense que j'avais tellement été éprouvée des nombreux castings qu'on passe pour arriver jusque stress, la télé. Ouais. Avec le stress, en fait, je me suis retrouvée un matin sans voix. Et là, a commencé le parcours de mes deux petites cordes. Je suis partie en tournée. Puis à un moment donné, au bout de 15-20 dates, je me réveille à nouveau un matin. Et je dis, en fait, je peux même plus parler. Quoi. J'avais le goût du sang dans la bouche quand je chantais.
Ah oui, c'était atroce. Ouais,
et en fait, oui, j'avais des polypes énormes et je me suis fait opérer une première fois.
Ouais. Je sais pas si vous en avez conscience, Amel, mais vous avez pris particulièrement depuis votre arrivée dans The Voice une autre dimension à l'écran. Vous êtes incroyablement étoffé. Vous avez gagné en autorité, en charisme, sans parler de votre féminité retrouvée. Ma question est toute simple. Est-ce que la coach Amel Bent a eu un coach pour travailler son image à la télé ou pas?
Pas du tout.
C'est
déjà
venu naturellement.
Merci pour tout ce que vous avez dit.
Non,
mais j'ai gagné en
mieux,
confiance parce que je pense que je on parlait tout à l'heure, je vous ai dit vraiment en toute honnêteté que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance. Quand on arrive très jeune justement dans ce métier, dans ce milieu, et qu'on vient d'un milieu peut-être très modeste, où justement on sent qu'on a peut-être un petit peu de... Je sais pas, un peu de retard sur combien de fois j'ai fait semblant que j'avais lu un livre alors que je l'avais pas lu, ou que j'avais vu un film alors que je l'avais pas vu, parce que voilà, je sentais que j'avais un petit train de retard sur pas mal de choses, parce que j'ai pas eu la chance de beaucoup voyager, j'ai pas eu la chance d'avoir des débats à la maison, que ce soit de politique ou d'avoir une famille qui bouquine. Et je suis partie avec ce petit truc-là, et forcément, peut-être que je me sentais pas à la hauteur en termes de vocabulaire, en termes de connaissances. Moi, je trouve pas que je me sois métamorphosée. Je pense que juste que j'ai trouvé le mode de communication. C'est-à-dire que je pense que j'avais beaucoup de choses à dire. Je pense pas qu'à l'intérieur, il y ait beaucoup de choses qui aient changé, en fait. C'est juste que peut-être je ne savais pas comment dire les choses.
Vous vous dites pas de métamorphose, mais le regard des gens, il a sans doute un peu changé sur vous aussi depuis The Voice, par rapport justement à cette nouvelle image.
J'ai pas une nouvelle image. Je pense que les gens, ils ont découvert la personne. Quand est-ce que vous voulez découvrir une personne, une chanteuse? Alors qu'en vrai, dans The Voice, tu découvres une personne, un être humain qui parle, qui résonne, qui pleure, qui rit, qui... On passe beaucoup de temps ensemble quand même, tous ces samedis soirs. On nous voit rencontrer des gens. Quand on est dans un fauteuil à The Voice, on ne voit pas les caméramans, il n'y a pas de caméra. Donc déjà, on se sent pas à la télé. La mécanique veut qu'à un moment donné, vous pouvez pas tricher. C'est des rencontres. Vous êtes face à quelqu'un, et là, ça y est, vous devenez juste une personne, en fait. On n'est plus chanteur, on n'est plus dans The Voice, on est...
C'est plus de la télé.
C'est plus de la télé. Et c'est pour ça que les gens, aujourd'hui, quand ils m'arrêtent dans la rue, qui me disent « je vous aime, je vous ai vu dans The Voice, je vous aime », je sais que c'est basé sur ça. Donc c'est du solide.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
Jusqu'à 12h30, les collectors dont on fait la télé sur RTL.
Et qui dit moment culte, dit quiz des génériques télé avec Jade.
Ah, il est content. Alors là, il est heureux.
Au-delà de ça, ce sera juste après les infos de midi, un peu de patience. Et puis on écoutera également le meilleur d'Enrico Macias. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussart.
Non mais je vous connais par cœur, Éric.
Qu'est-ce qui se passe encore?
Ouais, quand vous prenez ce petit air satisfait là, c'est qu'on va réécouter un quiz de générique télé, c'est ça?
C'est vrai qu'après 6 ans de vie commune, je peux plus rien vous cacher, c'est exact.
Oui, ah, ça c'est sûr.
Un blind test face à Amel Bent qui avait viré, mais alors au grand n'importe quoi, parce que ce jour-là, vous aviez carrément inventé des noms d'émissions. Non mais là, vous aviez crevé tous les plafonds.
Le tout pour le tout.
Unique, très fort, on écoute ça maintenant.
On refait la télé sur RTL, Jukebox.
Quoi je lis, fou de toi, que tu l'aimes,
Elle a très envie de la chanter en live, cette chanson. On sent,
hein. Non, mais j'aime trop cette chanson. J'aime trop cette chanson avec Dadju.
Voilà, tu l'aimes encore avec Dadju. Autre très joli duo à retrouver sur votre album.
Vous aimez les duos. J'espère que vous aimez aussi les duels, puisque maintenant vous allez affronter Jeanne dans un blind test de générique télé. Attention, elle est devenue très forte depuis 3 semaines après 50 défaites.
Je gagne, mais c'est toujours très nul surtout.
On va jouer avec des génériques d'émissions que vous aimez beaucoup, Amel, ou que vous avez beaucoup aimé, mais que Jade connaît aussi, évidemment. On commence avec un incontournable pour vous, Amel.
M6, le Hit Machine.
Ah, oui, voilà. Parce que le Hit Machine, c'était sacré, ça, pour vous. Hein.
Voilà, voilà.
Vous ne loupez jamais. Hein.
Vous savez que le jour où je suis allée chanter au Hit Machine, je me suis dit, ça y est, je peux mourir.
Ça y est.
C'était un peu tôt, hein, parce que c'était le début.
Oui, bah on n'aurait pas eu Vivante, hein, c'est con. Mais,
ouais.
Mais c'est vraiment l'émission de divertissement de toute mon adolescence, de toute même mon enfance d'ailleurs. Charlie et Lulu, il y avait toutes les grandes stars qui venaient.
Maria Carré, par exemple.
Mais tout le monde est allé chanter là-bas. Toutes les stars américaines.
C'était énorme.
Ouais. C'était incroyable.
Allez, une autre émission de votre jeunesse, Amel Bent. Petit indice, c'était diffusé l'été.
Oh là là,
Interville.
60 minutes à l'ombre.
Non, c'est pas Interville.
Attendez, parce que là on a un truc camoulox. Alors effectivement, Jade, c'est Interville.
C'est Interville.
Mais là, Amel Bent vient de nous dire donc 60 minutes à l'ombre, Marie-Ange Nardi. C'est donc 40 degrés à l'ombre.
Je sais même plus ce que vous avez
dit. Parce qu'elle a dit 60 minutes à l'ombre. Bah, c'est bien, 60 minutes à l'ombre en même temps.
60
en plein été.
Inside à l'ombre.
À Londres, vous carrément, Marco.
À Londres.
Ah, bienvenue dans le camoulox géant de ce blind test. Et bien, c'était Interville.
Ah,
regardez comme c'était petit.
C'était trop bien, les vachettes.
Ah ouais, les vachettes. Eh, vous avez un taureau dans votre clip. Dans le clip du chant des colombes.
Oui.
Vous dansez face à lui.
Quel trait d'union.
Vous n'avez pas eu peur?
Ah, bah, bien sûr que j'ai eu peur, enfin.
Vous avez eu un bon contact ou pas?
Bah, a priori, à ce qui paraît, c'est Dixit le manager. Il vous aime bien.
Il vous a pas chargé, il vous aime bien.
Voilà, il vous a pas encore mis, c'est que tout va bien.
Il vous
apprécie beaucoup.
Allez, on retourne au quiz des génériques télé avec maintenant une émission très très souriante.
Ah, c'était pas un mystère?
Non, c'est pas loin. Bah, y a, c'est une sorte de mystère, effectivement. C'est Faites entrer l'accusé.
Mais c'est pas ça la musique de Faites rentrer l'accusé.
Oui, non, mais c'est la nouvelle.
Non, c'est le générique de début. Vous parlez du générique de fin, j'imagine. Ouais, parce que vous regardez tout, parce que vous adorez ce genre de truc.
Ouais, bon, après, moi, j'aime pas toutes les histoires criminelles. Moi, je suis vraiment spécialisée. Genre, on dirait que c'est mon deuxième boulot.
C'est
mon boulot d'été. Moi, c'est plutôt la psychopathie. Hein. Moi, c'est les tueurs, les serial killers.
Ça, c'est
les grandes enquêtes sur les psychopathes. Après, les affaires criminelles, les faits divers, tout ça. Les tueries en famille, là, c'est pas...
Vous lisez toujours des petits livres sur les serial killers avant de
dormir? Ouais, là, je viens de me faire imprimer les 3 tomes de l'encyclopédie du tueur en série.
C'est bien, ça,
ils sont tous répertoriés.
Ça détend, hein. Jade,
oui.
Vous menez? Mais 3 à 1
ça vous épate.
Non, mais parce que là, c'est-à-dire que vous êtes largement en tête. Je crains même que Amel ne puisse qu'égaliser, puisqu'il reste que 2 génériques, mais bon, on y va quand même. Générique suivant.
Si on a squatté la télévision...
Changez plus de version. C'est les Minicums. C'était un peu les guignols de l'info pour les enfants.
Vous savez comment ça, c'est l'inconscient qui remonte.
Oui.
J'ai pas dit ce mot là, Minicums, depuis au moins les années 90.
En même temps, on l'emploie pas tous les jours.
Et c'est ressorti tout seul. Alors que
c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de parler des Minicums.
Non, mais le cerveau, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que ça fait partie de ma mémoire profonde.
Bien sûr. C'est les souvenirs d'enfance.
Attention, Amel Bent. Dernier générique, les héros de votre enfance.
Power Rangers.
Bioman. Non, c'est Bernard Minet aussi, mais...
Les musclés. Les chevaliers du Zodiac.
Ouais, bah là, maintenant, évidemment, il a donné la réponse.
Maintenant, je l'ai dit avant, il a fait que 10 cheveux.
Ouais.
Bah, vous appellerez Bernard Minet, vous mettrez d'accord. Hein.
Voilà, avec Athéna, moi j'étais Athéna.
C'était diffusé dans Club Dorothée, vous étiez une des plus grandes fans du Club Dorothée.
Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, j'adore, vraiment.
Nous avons donc une situation absolument inattendue. Nous avons une égalité entre l'invité et Jade. Alors, comment faire pour vous départager?
Bah, vous chantez quelque chose.
Vous lui offrez la victoire, c'est très sympa.
Mais je veux dire ma victoire quand même. C'est comme si j'avais gagné.
Alors, on va dire que vous partagez la coupe, on applaudit les deux. Bravo,
Marlène
et Jade.
Jade, elle est trop gentille.
Avec joie.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Les collectors d'On refait la télé avec maintenant une légende de la chanson. Sa première télé, c'était au début des années 60. Plus de 60 ans de carrière qu'il était venu fêter avec nous.
Et voici l'histoire à travers la télé du chanteur le plus sympa de France, Enrico Macias.
On refait l'invité.
Alors, on va refaire votre parcours à la télé. On commence évidemment avec votre toute première fois. Vous vous en souvenez ?
C'était avec Daniel Gilbert, je crois.
Bah non, je pense que c'est plutôt que ça.
Oui, vous aviez 23 ans, nous c'est ce qu'on a, le 8 décembre 61, dans Rendez-vous à Paris avec Caroline Clerc et Jacques Bedos, l'oncle de Guy Bedos. Oh,
bah oui, parce que Jacques Bedos, ça a été le premier qui m'a découvert.
Presque. Il vous a repéré en Algérie, puisqu'il travaillait à Radio Algérie.
Qui est ce charmant garçon là-bas devant qui...
c'est un garçon qui s'appelle Gaston Gnassia.
Vous savez, moi je trouve qu'il a une tête à avoir de la nostalgie, à être un homme mélancolique. Il a des yeux un peu tristes.
C'est un peu ça. D'ailleurs, il vient de Constantine, il vient donc d'Algérie, et c'est avec une certaine mélancolie qu'il évoque ce pays.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison.
Ça, c'est la toute première télé, hein, a priori, 8 décembre 61. Cette chanson « Adieu mon pays », vous l'avez écrite dans le bateau quand vous avez dû quitter l'Algérie en guerre pour rejoindre la France, Enrico Macias. Elle est devenue depuis l'hymne de tous les déracinés. Elle résonne encore, hélas, aujourd'hui avec l'actualité, cette guerre en Ukraine. Le drame des réfugiés ukrainiens, j'imagine, à la lueur de ce que vous avez vécu, vous-même réfugié, que ça vous touche particulièrement.
Bien sûr, surtout que j'avais quitté l'Algérie avec un drame, c'était l'assassinat de mon beau-père et le grand maître de la musique arabe andalouse, Cheikh Raymond. Et là, j'imagine les Ukrainiens avec ce drame terrible de les bombardements, les gens qui fuient le pays.
10 millions de personnes qui ont quitté le pays déjà.
Ben oui, mais oui, c'est terrible. Surtout en ayant perdu des êtres chers, certainement. C'est terrible ce qui arrive. C'est terrible. Jamais j'aurais cru qu'en 2022, on allait assister à des événements pareils. Jamais.
Et vous, mieux que quiconque, pouvez comprendre ce que vivent ces réfugiés ukrainiens. Vous avez connu ça, vous aussi.
Bien sûr. Bien sûr que je les comprends. C'est terrible. Et quand j'entends des gens dire « immigration zéro », tout ça, comment on fait pour ne pas accueillir ces gens-là ? Comment on peut les laisser comme ça ? Il faut une solidarité, pas seulement en France, mais dans le monde entier, pour toute l'humanité entière, il faut une certaine solidarité.
Quand on parle d'Enrico Macias à la télé, on ne peut pas ne pas évoquer vos années Carpentier, Enrico. Vous étiez un habitué de leurs émissions. Hein.
Un soir, vous vous étiez même lancé dans un numéro d'imitation. Vous aviez pris la voix de Claude François devant lui.
Laisse-moi te t'imiter maintenant, mon
tour. Les choses de cette maison te regrettent autant que moi. Elles ne veulent pas croire que tu m'es quitté.
Oh, le lundi au soleil,
aïe maman,
c'est une chose que l'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, et quand on est derrière les carreaux.
Un autre temps, une autre télé aussi, on s'y amusait plus qu'aujourd'hui, non ?
Bien sûr, parce qu'on communiait non seulement avec le public ou avec la caméra, mais aussi avec des autres artistes. Moi qui ne sais pas du tout danser, j'ai appris à danser avec Annie Cordy, je lui ai brisé le genou.
Ah, donc je ne suis pas sûr que vous dansiez si bien que ça, alors.
Non, pas terrible.
Alors là, attention Enrico Macias, on a une archive très très classe.
On est en 1981, le journal de midi d'Antenne 2, à l'époque, consacre un reportage au concert que vous venez de donner dans une salle mythique de New York.
Chanteur Enrico Macias n'a pas repassé la Méditerranée, mais traversé l'Atlantique, où il a chanté au début du mois dernier, au Madison Square Garden de New York, qu'il a rempli 3 fois de suite, et la salle fait 15 000 places.
Lorsque j'étais jeune, j'imaginais tous ces grands boxeurs. Jamais j'aurais pensé un jour que j'allais chanter dans ce temple de la boxe. J'ai été contacté par Barbara Streisand pour être son partenaire dans un très grand film. Et nous allons signer le contrat lorsque je vais chanter à Los Angeles.
C'était quoi ce film avec Barbara Streisand ?
C'était rien que ça. Yankel. Elle m'avait reçu à New York pour le film. Et finalement, je ne l'ai pas fait.
N'empêche, New York, Los Angeles, et pas seulement Enrico Macias, on vous connaît dans le monde entier, Japon, Liban, Turquie, Égypte, Israël, et même, et là c'est un petit peu plus gênant, l'Afghanistan. Cette histoire est incroyable mais vraie. En 2001, les Américains avaient retrouvé des cassettes de vos albums dans une planque de Ben Laden.
Oui, c'est vrai. Quand on m'a annoncé ça, j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, c'est pas possible. Et on m'a rappelé encore, mais on m'a dit, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et finalement, c'est vrai. Mais ils ont trouvé aussi des cassettes de Gandhi, parce que lui, qui est un apôtre de la barbarie, de la guerre, du terrorisme, Il voulait un petit peu écouter ce que les autres disaient de la paix.
Quand même, c'est un comble hein, d'avoir pour fan Ben Laden quand on a toujours chanté la paix.
Il n'a voilà, pas bien écouté.
C'est ça. Ouais. Mais j'en suis pas fier. Hein. Je suis pas très fier que Ben Laden soit un fan de moi.
Enrico Macias, on va terminer avec un autre extrait culte avec vous à la télévision. Une date peut-être dont vous vous souvenez.
Le 26 mai 1993, une émission de télé en direct avec Christophe de Chavannes.
Oui. Je me souviens, on a reçu des boulets, des boulons sur la tête.
Ça, on n'oublie pas. Hein. Vous étiez en direct.
Non, j'ai pas oublié parce que j'ai été supporté, évidemment, l'équipe de Marseille qui jouait la finale de et qui l'ont gagné d'ailleurs, la finale de la Coupe d'Europe. Et comme tous les supporters marseillais savaient que j'étais supporter numéro un de PSG, ils n'ont pas accepté. Moi, jeté des trucs de toutes sortes.
On peut dire que ce soir-là, dans Coucou c'est nous, vous aviez passé un sale quart d'heure, voire une sale heure, Enrico Macias.
Oui, j'ai passé une sale heure. On était obligé d'ailleurs d'interrompre l'émission et de partir.
Christophe de Chavannes s'en souvient encore.
On nous a placés au milieu de supporters marseillais très en forme.
Je remercie l'ami moustachu là-bas qui vient de nous jeter son verre de Coca-Cola. Et c'est très gentil parce que je viens de le voir et c'est très aimable. Merci beaucoup.
C'est lâche même de faire ça. On est vraiment en pâture là.
Oui, ça c'est sûr. Enrico est en train de s'énerver, il faut garder le sourire.
Et il avait les boules comme ça, Macias. Il n'en pouvait plus. Il s'était pris des trucs dans la tronche, des trucs, des pommes, des frites.
J'ai reçu une pomme dans la gueule, excuse-moi. Hein.
Et à un moment, il y a encore un mec probablement qui lui dit un truc genre... Je sais pas, une insulte. Et j'entends le chanteur de La Paix dans le Monde s'arrêter et lui dire « Enculé de ta race maudite
». C'est vrai, Enrico Macias.
C'est vrai.
Aujourd'hui, vous allez toujours au stade ou pas pour soutenir le PSG?
Oui. J'étais dernièrement pour PSG Real, au match aller, où ils ont fait un exploit formidable, les Parisiens. Puis au match retour, on a fait un exploit première mi-temps, et après en deuxième mi-temps, ils sont écroulés, ils ont pris 3 buts.
Ça vous a dépité, je le sens bien.
Ah oui, je suis écœuré.
Comme les supporters.
Oui, comme tous les supporters. J'ai même plus envie de les voir.
Non mais c'est à ce point-là?
À ce point, oui.
Ça veut dire que vous allez les boycotter quand ils vont passer à la télé, les matchs?
Je regardais l'émission d'automobile.
Ah, vous regardez plus chef, vous n'allez plus regarder les matchs du PSG?
Non, je veux plus. Je veux plus.
Donc l'abonnement aussi au stade, on oublie?
Non. Je veux plus. De toute façon, ils nous invitent même pas. Alors, c'est pas la peine.
On sent Enrico Macias très fâché, comme bon nombre de supporters, par ce qui s'est passé.
Oui, je suis fâché parce que quand on touche des salaires comme ça et être en dessous de tout, c'est pas normal.
Donc on leur dit quoi? On se remet au boulot? Si vous voulez revoir Enrico, remettez-vous au boulot. Ça rime en plus.
Oui, voilà.
Il faut rappeler Jade qu'Enrico Macias n'est pas seulement connu en France, hein, c'est aussi une star dans de nombreux pays étrangers. Hein.
Bien sûr.
Et ça, c'est sans doute grâce à sa parfaite maîtrise de l'anglais. Il nous en avait fait la démonstration. Enrico Macias, vous avez un bon anglais, vous?
When I speak English, all the people...
Understand.
Understand me very well, because my English is very bad. Non, mais en plus, moi, j'ai pas l'accent français. Quand je parle anglais, j'ai l'accent pied noir.
C'est pour ça que vous avez jamais chanté, en fait, avec
anglais. C'est un peu une niche, oui.
Vous savez, la première fois que j'ai chanté aux États-Unis, c'était au Carnegie Hall. J'avais un tube en France, c'était mon cœur d'attache. Et... j'ai décidé qu'on me fasse une adaptation en anglais de cette chanson. J'avais acheté un magnétophone dans les oreilles pour que j'écoute la chanson en boucle.
Ah, pour vous imprégner de l'accent, en
oui,
fait.
Ouais. Non, pas pour les paroles, en anglais, l'accent et tout. Et j'ai dit, je vais leur en mettre plein la vue quand je vais chanter mon cœur d'attache en anglais. Alors, jusqu'à présent, je me rappelle de la chanson. Jusqu'à présent, tellement elle est rentrée dans mon cerveau.
Ça donnait quoi?
C'est « Look at the sun, why clouds never caught him, he'll soon be through. I get on like I always do. I'll come back, my love to you. »
Ah ben c'est pas mal.
Nous on adore.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Il est courageux quand même, Enrico Macias. Hein. Vous vous souvenez, Jade, qu'il avait accepté de jouer à notre petit jeu Archivo Archifo.
Tout à fait.
Alors que pour lui, qui passe depuis 60 ans à la télé, c'est évidemment beaucoup moins facile que pour d'autres qui sont là depuis quelques années seulement. Hein.
Oui, puis en plus, on avait essayé de le piéger avec une imitation de celui qui fait mieux Enrico Macias qu'Enrico Macias lui-même. Je veux bien sûr parler de mon ami Laurent Gérard.
Archive ou archifo?
Alors le principe de ce petit jeu est très simple. On affirme des choses sur vous, Enrico Macias. Si vous pensez que ça a vraiment existé, vous nous dites archive. Si vous pensez que ça n'a pas existé, vous nous dites archifo.
D'accord.
Un jour, vous avez réveillé un animateur télé qui faisait une sieste pendant son émission. Archive ou archifo?
Archifo.
Et pourtant,
c'est vrai.
Ah bon?
Eh oui.
Mais alors, rappelez-moi.
On n'est pas sûr que ce soit une sieste, mais il y a une absence.
C'était Michel Drucker.
Ah, Michel Drucker?
Oui,
ah,
qui oui. avait eu une petite absence pendant l'une de vos chansons. C'était dans Vivement Dimanche.
Ah oui, ça y est.
Je suis resté fidèle.
Alors, cette fois, une chanson avec Jean-Louis Dabadie à la plume, Le Voyage.
Oui.
Belle chanson également.
Ouais. J'ai tenu à la chanter.
On écoute.
C'est ce que je viens de chanter, Le Voyage. Je l'ai enchaîné.
Que voulez-vous, c'est le risque avec ce canapé rouge, il est si confortable qu'on peut s'assoupir assez facilement. Hein.
Il devait être un peu fatigué, mais enfin bon.
Oui, c'est rare.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il devait penser à autre chose.
Exactement, il était en train de dérouler son émission et en plus, il avait eu beaucoup d'humour puisqu'il avait laissé au montage de l'émission. Hein. Enrico, vous savez que vous faites partie d'un club très fermé, celui des artistes qui ont connu la télé sans Michel Drucker, puisque vous avez fait de la télé avant lui.
Salut Michel, on t'embrasse.
On l'embrasse.
Mais il y a 3 ans d'écart seulement, hein. Je crois que franchement ça s'est joué à peu de choses.
Oui.
Parmi vos nombreux passages télé chez Michel Drucker, on se souvient de cette fois où il vous avait invité à parler du printemps arabe.
Enrico, tu veux revenir sur tous ces soulèvements populaires qui secouent les pays arabes?
Bien sûr, je veux dire merci Michel. L'ébullition populaire, elle s'explique par un sentiment de colère et d'injustice. Une grosse colère, une colère terrible. Comme quand Tata Jamila, elle a découvert qu'on lui avait volé sa dent en or.
Vous vous reconnaissez dans cet extrait, Enrico Macias?
Non, c'est Laurent.
Eh ben oui, c'est Laurent Gérard. Mais n'empêche, c'est incroyable.
Il est tellement bien.
C'est bluffant. Hein.
Que j'ai hésité, j'ai cru que c'était moi qui répondait. J'ai dit, c'est pas possible que je réponde ça.
Il vous imite à la perfection. Hein.
Ah oui, ah oui.
Vous l'écoutez le matin, je crois, avec Jade, hein, sur RTL.
Oui, ça vous arrive. Je les écoute, bien sûr, avec Tata Jamila, avec...
Tonton Abdel.
Il est vraiment extra, ce Laurent. Ouais. En plus de ça, quand il m'imite avec gentillesse et amour pour moi.
Mais parce que
c'est drôle,
cas.
C'est
il vous aime. D'ailleurs, il vous dit bonjour. Hein.
Oui, je l'embrasse très fort.
Enrico, autre test de mémoire.
Si je vous dis que nous avons retrouvé une émission de télé dans laquelle vous avez un gros problème de bande orchestre, vous me répondez archive ou archifo?
Archive.
J'imagine qu'en 60 ans de carrière, des galères techniques, il y en a eu à la télévision.
J'en ai eu pas beaucoup. Hein peut-être celle-là et peut-être une autre encore.
Ouais. Bah nous, on a remarqué en préparant cette émission qu'il y avait une malédiction avec l'un de vos tubes à la télé, Enrico. Les filles de mon pays.
Ah.
On ne sait pas pourquoi, ça bug souvent quand vous la chantez, que ce soit à la Star Academy ou dans une émission de Cyril Hanouna.
Bah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. On est en famille, on va recommencer parce que franchement, vous m'avez pas mis la bande assez fort. Et s'il vous plaît, mettez-moi la bande de l'orchestre et moi je chante en direct. Hein. Vous avez trouvé cette bande de l'orchestre. C'est pas la vraie chanson. La, 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 la.
Ce qui est fort, c'est que vous gérez tout ça avec grande décontraction. D'autres se seraient énervés. Vous êtes cool. Hein.
Ah, je trace ma route. Vous savez que sur scène, il m'arrive d'avoir des trous de mémoire parce que moi, je chante jamais avec un prompteur.
Bah, le public connaît par cœur.
Le public, il les connaît. Mais en plus de ça, ma guitare qui m'aide. Quand je me trompe, je joue de la guitare à la place. Ou alors, je dis « laï, 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 laï ».
Et ça passe comme ça.
« Poi, poi, poi », ça marche très bien.
Voilà.
Les filles de mon pays, j'avais beaucoup aimé aussi une autre version de ce titre que vous aviez interprété à la télé avec Yves Lecoq. Vous ne parliez plus de filles, mais de fuel.
Donne-moi ton pétrole, je te donnerai de l'agneau. Je t'échange un baril contre une jolie fille. Ah, comme il est joli, le fuel de mon pays.
Comme il est joli, le fuel de mon pays, une chanson ne peut plus d'actualité vu le prix de l'essence.
Voilà.
Et bien voilà, pour nous, la route s'arrête ici aujourd'hui. Ben on se retrouve samedi prochain, 11h30, pour d'autres collecteurs de Refait la télé.
Avec notamment 3 femmes qui n'ont pas la langue dans leur poche. Amanda Lear, la reine de la punchline, mais aussi 2 journalistes qui ne font pas du tout dans la langue de bois, contrairement aux politiques qu'elles interrogent.
Jade, est-ce qu'on ne retournerait pas dans la piscine gonflable qu'on a mis dans le bureau du Big Boss?
Ah, c'est pas mal.
J'ai
ça.
Ma bouée canard en plus aujourd'hui. On
ah,
peut y
bah
aller.
Oui, ah, tant qu'elle est là.
Parce que moi, je me baigne que là où j'ai ventre.
Bah, c'est bien.
Allez, on vous souhaite de passer un très bon week-end sur RTL. Dans quelques minutes, les infos.
Salut, salut.
Ciao.
Vous écoutez RTL.